L'émission numéro 1. Numéro 1. Sur le son urbain. Sur le son urbain. Et les nouveautés.
Dans quelques secondes seulement, il sera 19h. Dans quelques secondes. Mais là, il est 18h59. On passe à Epicois avec Martin Luther Py qui nous raconte ce qui se passe un tout petit peu.
Alors, comme on l'a dit lors du sommaire, on va parler justement de l'économie de la musique, les changements, parce qu'on le sait, au début, la musique, c'était pas toujours le streaming. On a commencé avec les disques compacts, ce qu'on a appelé les CD. Et aujourd'hui, on est en moins en train de toucher le CD. On est passé du CD à la clé USB, de la clé USB aujourd'hui au streaming.
Ouais.
Alors, on va écouter justement l'élément qui parle de cette transition, mais on est beaucoup focus sur le streaming.
Pendant plusieurs décennies, la musique était mieux avant. Nous allons aller regarder les raisons qui ont contribué à ce que la musique soit plus rentable aujourd'hui, mais mieux avant. Et puis quoi ? Pendant des décennies, l'industrie de la musique fonctionnait selon une règle simple. Pour écouter un album, il fallait l'acheter. Un CD coûtait en moyenne $15 et sur cette somme, un artiste pouvait toucher entre $4 et $5 selon son contrat.
Il y a un problème fondamental. Les gens aiment la musique, mais les moyens légaux pour accéder sont trop compliqués, trop chers et manquent surtout de flexibilité.
Ce modèle permettait à un album qui rencontrait le succès de financer plusieurs années de carrière, mais l'arrivée d'Internet puis du streaming a forcément bouleversé cette économie et la manière dont la musique est aujourd'hui créée. À la fin des années 1990, la vente d'albums physiques constituait le cœur de l'industrie musicale. Acheter un disque signifiait écouter l'ensemble d'un projet. Chaque chanson comptait car le public payait pour l'album complet. Dans ce contexte, les artistes prenaient le temps de travailler leur projet. Certains passaient des mois, parfois plusieurs années à écrire, composer et produire un album. L'objectif était de proposer une œuvre cohérente où chaque titre méritait sa place. Un album réussi pouvait marquer une génération et assurer une stabilité financière à son auteur. Puis Internet est arrivé. Au début des années 2000, le piratage fragilise fortement l'industrie musicale, les ventes de CD chutent et les maisons de disques cherchent un nouveau modèle. C'est dans ce contexte que le streaming apparaît avec des plateformes comme Spotify.
Spotify, c'est l'idée de deux hommes, Daniel Ek et Martin Lorenzon.
La promesse est simple, écouter toute la musique du monde à la demande sans avoir à acheter chaque album. Mais ce modèle change complètement la manière dont les artistes sont rémunérés.
Convaincre les grandes maisons de disques n'était pas une mince affaire. Universal Music, Sony Music, la Warner, toutes ces énormes entreprises étaient méfiantes vis-à-vis de ce nouveau modèle de diffusion de musique.
Aujourd'hui, une écoute sur Spotify rapporte en moyenne environ $0,03. Autrement dit, il faut environ 1000 écoutes pour générer $3. Pour atteindre un revenu annuel d'environ $50,000, un artiste doit désormais cumuler près de 17 millions d'écoutes par an. Dans ce nouveau système, la logique n'est plus la même avant. Il fallait créer un album solide capable de durer dans le temps. Aujourd'hui, il faut produire une chanson qui donne envie de cliquer. Encore et encore. Résultat, les formats musicaux évoluent, les introductions sont plus courtes, les refrains arrivent plus vite et les titres durent parfois moins de 3 minutes. L'objectif est simple, capter l'attention de l'auditeur dès les premières secondes avant qu'il ne passe à une autre chanson.
La version gratuite soutenue par la publicité et une interface très conviviale qui donnait un accès à une immense bibliothèque musicale. L'ascension était rapide, mais non sans obstacle.
Les playlists et les algorithmes des plateformes jouent également un rôle déterminant. Une chanson qui accroche immédiatement peut être intégrée dans des centaines de playlists et atteindre rapidement les millions d'écoutes. A l'inverse, une composition plus complexe qui demande plusieurs écoutes pour être pleinement appréciée peut passer inaperçue dans cet environnement dominé par la rapidité et l'instantanéité. Si certains auditeurs ont l'impression que la musique est plus simple qu'avant, ce n'est forcément pas que les artistes ont moins de talent, c'est surtout parce que l'économie de l'industrie musicale a changé. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les artistes qui façonnent la musique, ce sont aussi les plateformes qui définissent les règles du jeu. Et puis quoi ?
Merci Martin Luther. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est qu'on comprend que la musique n'a pas forcément changé parce que les artistes ont moins d'inspiration, mais parce que les modèles économiques, le modèle économique a changé. Avant, on achetait un album et on prenait le temps de l'écouter du début à la fin aujourd'hui, tout se joue dans les 10 premières secondes.
Ouais.
Et d'un titre, parce que voilà, si ça n'accroche pas, allez, hop, on a swipé, on est allé, on est passé à autre chose. Mais finalement, la vraie question, c'est est-ce que ce sont encore les artistes qui font la musique ou bien les algorithmes finalement ?
Bah, moi, je pense que ce sont les algorithmes parce que les mélomanes sont devenus plus demandeurs et aujourd'hui, contrairement à avant, on écoutait avant parce qu'on avait payé le disque.
Ouais.
On avait payé tout l'album. Donc, il fallait être obligé d'écouter toute la musique parce qu'on l'a payé. Aujourd'hui, pour les versions gratuites de cette plateforme de streaming là, bah c'est pas que tu payes, justement tu as des mégas que tu dois garder
et voilà, économiser.
Donc tu le qui-vive, ce qui t'accroche pas, bah tu balances directement à la corbeille et puis tu continues. Donc tu es un peu rapide parce que tu es serré par tes mégas, sinon tu vas perdre l'envie d'écouter ou alors la sensation d'écouter la musique, de la bonne musique et tout ça. Donc du coup aujourd'hui on écoute beaucoup plus les musiques avec des gimmicks, des musiques qui font rusher rapidement la tête.
C'est un peu TikTok qui donne un peu de viralité.
De viralité et du rythme même à certaines musiques.
Ouais. Dès que tu écoutes là-bas une, deux, trois fois, tu te dis
Et c'est pour ça également qu'il y a des chansons qui se usent un peu avec le temps et qui reviennent aujourd'hui, notamment avec l'avenir des plateformes, entre autres TikTok. Tu vois, on a plusieurs chansons comme ça, entre Beast and the Scrap de Nicki Minaj qui était enterrée,
mais qui est revenue,
petit mashup s'est revenu et on a la chanson a encore connu un regain de puissance.
Ouais.
La vérité c'est que on a beau dire quoi, mais l'avenir des nouvelles l'ascension des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait en sorte que de moins en moins les éléments ou alors les chansons, on va passer dans le cas des chansons, soient se dégradent, tu vois.
Change un peu de chemin, si on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi un autre pan que j'ai pas parlé dans le truc, parce que je pense faire une autre chronique avec, c'est justement la musique et l'IA.
Là-bas, c'est encore autre chose. Non,
aujourd'hui, on parle seulement du streaming, mais sauf qu'il faut, il faut se le dire, la musique est en train de migrer. J'ai rencontré, pendant que je faisais mes recherches sur ceci, un jeune homme qui est en France qui est ce qu'il a défini comme étant artiste IA. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne chante pas physiquement. Il peut faire des concerts physiquement, mais
il fait des compositions
et puis c'est peut-être grâce à ses liens à qui chante, c'est pas lui.
Non, il fait pas de compositions justement. Ça veut dire qu'il écrit un prompt dans sa machine une intelligence artificielle et ça lui sort une musique et il met dans une autre et le rythme sort naturellement.
Ouais.
Il a composé, il est actuellement à 3 albums avec l'IA qu'il est en train de vendre sur. En fait, il dit qu'il est artiste IA, donc il est en train de vendre ses albums sur YouTube, sur les plateformes et tout. Et ça passe.
Et d'ailleurs, plusieurs personnes, il faut dire que la vérité, l'IA est tellement à la portée de tout le monde. Et c'est même gratuit à un moment donné. Je vais prendre un exemple. Mon petit frère est très fort dans ce domaine-là. Il écrit des chansons
comme
avec l'IA. Ouais, il s'était fait écouter.
Ah bon ?
Ah
hey.
Il écrit les chansons, c'est lui-même. C'est que sa tête.
Combo.
Il écrit les chansons, c'est sa tête.
Ah bon, hein?
C'était fait écouter, mais je pense que ça ici quelque part.
Et puis, maintenant, de nos jours, je crois qu'avant, les artistes devaient vendre des millions de CD vendus, machin et tout. Mais maintenant, je pense que les artistes ont. Enfin, certains sont plus mis en avant par popularité, parce qu'ils ont fait le buzz, parce que leur chanson passe bien sur une plateforme spécifique, donc du coup, tout le monde veut se l'arracher. Enfin.
Disons que les plateformes ont donné le ton.
Chaque époque a son tunnel, son canal. Merci beaucoup.
Merci à toi.
On passe au What's Happening.
Wow.
Avec ou sans transition?
Une petite transition.
Pas plus de 2 secondes. Hein.
Ok.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.